mode d'emploi.
Ok, bienvenue sur mode d'emploi, séquence secret de fabrication. Donc vous êtes bien sur 106.3 FM, www.rfpp.net. Voilà, et aujourd'hui, veillée d'armes sur le front social. Parce que, ok, on a des mauvaises nouvelles pour commencer, mais vous allez voir, ça va s'améliorer au fur et à mesure de l'émission. Donc, votre serviteur, donc camarade Bob, à l'animation avec
Selma.
Avec Selma. Et donc voilà, donc on est autour du feu là, tranquille, on est en train de griller des marshmallows.
T'as raison, il fait froid.
Il fait froid, bah ouais, c'est normal, il faut se réchauffer, puis la nuit va tomber. La nuit macronienne est en train de tomber sur le pays. Que des réjouissances, on va passer 5 ans d'enfer. Ouais, c'est trop cool.
Mais on va se battre.
Ben oui, on va se battre, et c'est justement le sujet de l'émission d'aujourd'hui. C'est-à-dire, la veillée d'armes, c'est le moment où on se raconte les histoires des batailles passées et des victoires pour se donner du courage pour les batailles à venir. Et donc, autour du feu, nous allons passer des séquences de l'année écoulée où on montre des gens en train de se battre, des gens en train de faire preuve d'action et de solidarité, hein, dans différents métiers, dans différentes situations. Voilà.
Il y aura du rail, du commerce,
de la poste. Il y aura des sans-papiers et de l'inspection du travail. Comme quoi, ça fait du monde. Voilà. Et donc, on va tout de suite commencer par une petite séquence. Rappelez-vous. Je situe le contexte. En octobre, donc de cette année, on a été obligé de se déplacer à Chambéry pour soutenir notre collègue Laura Pfeiffer. Hein. Donc à la cour d'appel, puisqu'elle était en appel de sa condamnation, et donc on avait déplacé beaucoup de monde à Chambéry, dont un camarade du rail qui vient nous expliquer, donc qui nous avait expliqué à l'époque pourquoi les camarades cheminots s'étaient déplacés en nombre en soutien à Laura Pfeiffer.
Ok, donc camarade Bruno, présente-toi.
Donc moi je m'appelle Bruno Poncé, je suis membre du bureau fédéral de Sudrail. Aujourd'hui je suis à Chambéry afin de soutenir la collègue de l'inspection du travail qui est au tribunal, avec le collègue qui a été le lanceur d'alerte avec elle, qui est aussi incriminé.
Ouais. Et vous avez ramené du monde, le rail, vous êtes venus un peu nombreux, j'ai vu, il y avait pas mal de chasubles vertes.
Ouais, on est quelques-uns, là je pense qu'on est pas loin d'une quarantaine et pour nous c'était important de soutenir aussi d'autres collègues qui en plus aujourd'hui font que leur travail et qui sont au tribunal d'avoir fait que leur travail.
Et donc c'était important. Alors vous avez beaucoup de relations avec l'inspection du travail dans le rail ou
Souvent oui, parce que nous malheureusement aujourd'hui quand en CHSCT ou dans d'autres instances ça ne fonctionne pas, on a souvent recours à l'inspection du travail. Moi j'ai des collègues qui sont très pointus là-dedans parce que malheureusement les instances représentatives du personnel ne fonctionnant de moins en moins, on est obligé de passer de plus en plus par l'inspection du travail. Et effectivement, on est vraiment en contact des inspecteurs du travail qui ont fait du bon boulot en règle générale afin d'avoir un réel dialogue avec l'entreprise quand à un moment donné l'entreprise durcit le ton et veut passer en force sur des sujets très importants comme des restructurations et des licenciements.
Oui, alors qu'est-ce que vous ressentez, comment vous percevez en fait la difficulté dans laquelle a été placée la collègue? Est-ce que vous voyez ce genre de situation, genre une intervention auprès de la SNCF par exemple, de l'inspection du travail qui tourne de la même manière? Vous pensez que c'est possible?
Le problème c'est que là dernièrement on a vu même mieux que ça, on a vu quand même la ministre qui a forcé le licenciement du collègue de Air France.
Ouais.
Nous on se dit qu'un jour ça va nous arriver aussi parce que nous actuellement on a depuis la dernière grève du mois de... Enfin nous on est en grève comme beaucoup de personnes depuis le 31 mars. Enfin même depuis le 9 mars. Et on a beaucoup de dossiers nous en ce moment en instance. Alors soit au tribunal, soit dans des conseils de discipline afin de souvent des radiations.
Ouais.
On a au moins 10 collègues en ce moment qui sont sur la sellette.
Ouais.
Et on se demande si un jour l'inspection du travail où on regarde des éléments protège le salarié et que à un moment donné la ministre du travail ou quelqu'un d'autre vienne et intervienne pour lui licencier. Donc effectivement aujourd'hui tout ça nous concerne et ça concerne tout le monde.
Ouais.
De toute façon comme le combat contre la loi travail concerne tous les travailleurs en France, le combat pour Laura et le collègue de Tefal concerne tous les Français. Malheureusement aujourd'hui être lanceur d'alerte on n'est pas protégé et on l'a vu dans des dossiers aussi financiers, donc ça devrait être protégé.
Il y a une montée de la répression dans le rail. Là. Toi, tu confirmes que chez vous, là...
Ah oui, on n'a jamais vu ça. Là, on sort des grèves, on a des... par exemple, à chaque manifestation, on voit des managers, des directeurs de l'entreprise qui sortent avec des GoPro pour prendre les gens en photo, qui surveillent sur les Facebook les images des manifestations pour savoir si les gens n'ont pas fait quelque chose, pouvoir reconnaître des gens qui auraient fait, soi-disant, quelque chose de criminel ou de délictuel, et après pour porter plainte. On a des collègues qui se retrouvent au tribunal ou ne serait-ce que convoqués au commissariat parce qu'ils ont fait une manifestation, ils étaient au mauvais endroit au mauvais moment. On a défendu un collègue début août à Amiens qui s'est retrouvé au tribunal parce qu'ils avaient brûlé des pneus sur la place de la gare avec des jeunes étudiants. Et ben ils sont cinq au tribunal directement parce qu'ils ont été pris par les caméras de surveillance.
D'accord. Donc pour les prétextes les plus légers en fait.
Ben oui, et puis aujourd'hui, et en plus, et tout le monde trouve ça normal, c'est-à-dire que maintenant l'entreprise s'appuie sur des passages au pénal pour après dire regardez, il a fait ça, donc maintenant on va en conseil des disciplines. Alors et les sanctions souvent c'est régulièrement demander la radiation.
Ouais.
Et là cette année on a au moins 10 dossiers nous. Où on est en instance là et on est inquiet parce qu'aujourd'hui l'entreprise n'entend rien du tout. Hein.
Ouais.
On sait que c'est irrespectueux de travail parce que le conseil de discipline, il y a 3 employés et 3 patrons. Et donc si c'est 3 contre 3, à un moment donné après il faut que ça soit statué par le directeur de région, le directeur de national. Et s'il veut pas, et si ça va pas, ça va à l'inspection du travail. Donc aujourd'hui c'est remettre aussi à l'inspection du travail un travail. C'est lui donner du boulot encore plus pour à un moment donné avoir le droit de manifester, le droit d'être en grève. C'est quand même un droit constitutionnel. Hein.
Donc il y a un lien direct entre le fait de tirer les tapis sous les pieds de l'inspection du travail et vous savez que ça va avoir... Ça, au bout du bout, si l'inspection du travail est fragilisée, c'est votre dernière
boîte,
c'est ça ?
Ah mais évidemment, parce qu'aujourd'hui, l'inspection du travail, vu les dossiers qui sont amenés par la direction, l'inspection du travail, dans son âme et conscience, souvent défend le salarié en disant « Mais attendez, là, c'est trop, c'est n'importe quoi. » Mais si aujourd'hui, l'inspection du travail, on est en train de leur faire comprendre qu'ils ont intérêt à bien écouter les patrons et à faire exactement comme on leur dit, évidemment, les salariés sont plutôt protégés. Mais puis pas seulement des délégués syndicaux, quoi que ce soit. Aucun salarié ne va être protégé bientôt.
Ouais.
Ni les travailleurs handicapés, parce qu'on a même des problèmes, nous, avec des collègues en travail handicapé, qu'on veut envoyer à l'inspection du travail. Donc, on a vraiment, vraiment des gros soucis. Pour la représentation syndicale, le gros problème aujourd'hui, c'est que la plupart des gens pensent qu'un délégué syndical, c'est comme un homme politique. Il est payé pour faire ça. Et d'ailleurs, à l'heure actuelle, on voit bien le discours qui est passé depuis les dernières grèves, c'est que les délégués syndicaux sont protégés et que c'est des privilégiés. Mais on n'est pas des privilégiés, on est des travailleurs qui avons pris un mandat pour défendre nos collègues. Aujourd'hui, on se rend compte que on est ciblé afin qu'à un moment donné, pour faire comprendre aux gens que être délégué syndical, c'est pas bien. Alors on est ciblé et puis après, qui va défendre les collègues ? L'inspection du travail, elle est ciblée et nous, les délégués syndicaux, on est ciblés. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, n'importe quel gouvernement va faire passer des lois ignominieuses et pour après faire quoi ? Pour après pouvoir faire exactement plus qu'est-ce qu'ils veulent, casser le CDI, casser les contrats de travail pour mettre tout le monde dans des services, dans des contrats précaires afin de pouvoir prendre tout le monde à la gorge.
Oui, donc Laura, elle a été sanctionnée pour avoir fait son métier, donc c'est pas juste un plaisir qu'elle s'est fait, elle a l'amour du métier bien fait, et c'est quelque chose qu'on trouve aussi dans le rail en fait. La bataille syndicale, c'est aussi une bataille pour défendre son métier, pour défendre le job.
Ouais, effectivement, parce que les cheminots, mais on est 170 000 cheminots, mais tous les cheminots aiment leur entreprise. Peut-être ceux qui ne l'aiment pas, c'est peut-être ceux qui la dirigent, malheureusement. Mais nous, on l'aime, notre entreprise. Donc souvent, on défend nos collègues, on est là pour défendre les collègues, on est là pour aussi protéger nos collègues, mais aussi on protège notre entreprise. Moi, je fais partie d'une branche, c'est le fret. Moi, le fret, ils l'ont démonté au fur et à mesure. On était 13 000 employés il y a 7-8 ans, on n'est plus que 6 500. Et aujourd'hui, dans les 6 500, il y a de moins en moins de personnes à la production parce que il n'y a pas de politique réelle de ferroviaire en France. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, bien sûr, nous, on se retrouve incriminés dans des situations parce qu'on défend notre boîte. C'est-à-dire qu'on aime cette boîte. Enfin, moi, je pense que la plupart des gens qui travaillent dans des entreprises, encore plus dans des grosses boîtes, mais tout le monde aime sa boîte parce qu'à un moment donné, son travail permet de nous nourrir. Puis en même temps, nous, c'est une entreprise historique. Enfin, il y a quelque chose. Quand on voit la collègue qui se retrouve au tribunal parce qu'elle a fait juste son boulot et qu'elle est inspectée du travail, c'est normal qu'elle fasse son taf et qu'elle note quand il y a des choses qui lui plaisent pas et qui sont pas normales, qui sont pas légales. On se dit que nous, ça nous arrive aussi tout le temps. Alors aujourd'hui, ce qu'il fait, c'est qu'il n'y a plus d'inspection du travail, il y aura bientôt plus de salariés pour protéger les autres et défendre les autres. Qu'est-ce qui va rester ? Rien. On va démonter au fur et à mesure toutes les entreprises françaises et mettre tous les gens dans des contrats précaires et puis faire ce qu'ils veulent.
Ouais.
Et là, nous, bien sûr qu'on défend pour l'emploi. Enfin, moi, je suis désolé, mais si vous voulez un service public de qualité, alors tant à la SNCF que dans les hôpitaux, qu'à partout, il faut embaucher au lieu de réduire les effectifs. Les fonctionnaires, on n'arrête pas de critiquer les fonctionnaires, mais les fonctionnaires, c'est pas des gens qui sont payés à rien faire. C'est qu'il y a vraiment du boulot. On est bien content aujourd'hui d'aller dans un hôpital et d'avoir des gens pour nous soigner. Ah ouais, mais c'est tout le contraire. Aujourd'hui, vous allez à l'hôpital et puis il y a de moins en moins de soignants. Donc c'est pareil pour nous. Au fret, c'est pareil. Au fret, 6 500. Alors que normalement, tous les camions en France qui traversent la France devraient être sur un train. Ouais. S'il y avait une vraie politique environnementale, mais il n'y a même pas. Ils nous parlent de la COP21. Ils veulent baisser les émissions de 20%. Mais ils ont qu'à commencer à mettre les camions qui traversent la France sur un train. Hein. Ouais. Un train électrique.
Voilà.
Mais il est du rail et tu vois, il parle d'autres secteurs.
Oui, bah oui. Alors si j'ai noté, il a parlé d'Air France. Il a parlé de l'inspection, bien sûr, puisqu'il était venu pour Laura. Il s'est déplacé pour une collègue de l'inspection. Il parle du salarié de Tefal, le lanceur d'alerte. Et à la fin, dans le service public, il parle de l'hôpital, quoi.
Mais il nous a pas dit qu'est-ce qu'elle devient, Laura?
Ah, alors Laura, en fait, on a eu une deuxième séquence plus tard, effectivement, quand le délibéré de l'appel est tombé. Et effectivement, malheureusement, l'appel a confirmé la condamnation en première instance. Mais c'est pas la fin de l'histoire. Parce qu'en fait, la mobilisation a continué, et notamment, on a continué à se battre, et on a obtenu des résultats. Hein. Notamment, le tribunal administratif a reconnu le premier accident de service que Laura avait eu quand elle était sortie du bureau de son directeur qui lui avait pourri la vie. Ça a été reconnu comme un accident de service indéniable, toutes les caractéristiques, par le tribunal administratif. Et par la suite, la hiérarchie s'est sentie tellement morveuse, bah, que quand les camarades du syndicat sont venus lui sonner les cloches, ils ont d'office régularisé la situation pour les 3 accidents de service suivants. Ce qui veut dire reconnaissance des arrêts maladie, prise en charge par l'État, suppression de la demi-solde, rétablissement du salaire. D'accord, première chose. Deuxième chose, la pression s'est accentuée pour exfiltrer la camarade dans des bonnes conditions de son poste dans la Haute-Savoie vers un poste de son choix. Elle a choisi la Guadeloupe et on a obtenu du ministère l'engagement à payer tous les frais de déplacement, y compris pour son conjoint. D'accord. Et donc aujourd'hui, là, son départ est imminent. C'est la semaine prochaine ou peut-être la semaine après, je me rappelle plus exactement, mais c'est vraiment à quelques jours maintenant. Et donc, quelque part, effectivement, malgré encore un revers judiciaire pour des raisons qui sont assez évidentes de favoritisme et de politique, la bagarre en souterrain a quand même permis de protéger la camarade, quoi. Voilà. Hein. Et ça, c'est grâce à la solidarité, c'est grâce à des camarades comme Bruno Durail qui s'est déplacé pour soutenir quelqu'un qui n'était pas de sa profession. Et ça, c'est important parce que je pense que c'est quelque chose qu'on voit pas, enfin qu'on conçoit pas bien. Les syndicalistes, ils sont pas juste focalisés sur leur job d'une manière très corporatiste et tout. Ils ont une solidarité entre les professions. Ils voient ce qui se passe ailleurs. C'est quelque chose qu'on oublie, quoi. Ouais, voilà. Donc, je pense que tout ça, c'est important. Hein. Bon, voilà, donc ça c'était la première séquence, notre première séquence pour dire un peu que la bagarre a continué toute l'année, hein, y compris en sous-marin pour que les choses avancent, etc. Et qu'on va avoir, on va passer d'autres exemples, hein. Mais l'idée c'est qu'il va falloir rentrer en résistance, hein. Et donc la résistance, moi je trouve que c'était bien illustré par la chanson qu'on va passer tout de suite, là. Voilà, c'était un hommage à Leonard Cohen par Nick Cave et Noir Désir, quand même. Et voilà. Donc, c'était une chanson de résistance et on va continuer à parler de résistance. Hein, parce que, au fur et à mesure donc, de l'année, on a continué à parler des combats ordinaires des salariés, de leurs syndicats pour s'affirmer dans les boîtes face à des projets qui sont démentiels. Hein, et donc, la séquence suivante. Va nous amener sur la question de la lutte contre les restructurations, hein, la lutte contre la pression à la restructuration, et notamment par l'exemple des postiers qui résistent encore et toujours à la réduction des effectifs et à la perversion des tâches. Donc ça, c'est une séquence qu'on a passée en novembre, et c'était Olivier donc de La Poste qui venait nous raconter son combat quotidien contre la démoralisation de son camp. Voilà.
Bien. Avec les luttes. Voilà. Parce que justement, nous, ce qu'on constate, c'est qu'en gros, ben voilà, ça pète pas le feu partout. Malgré tout, La Poste, c'est quand même encore une boîte où il y a beaucoup de conflictualité. Tous les deux jours, il y a un site en grève sur le territoire à La Poste. Voilà. C'est-à-dire que la boîte.
Des bonnes nouvelles, enfin.
La boîte fait tellement de réorg, ça cache tellement l'emploi, attaque tellement les conditions de travail des agents, que forcément, fatalement, ça crée des réactions du personnel. Voilà. Et en gros, ce qu'on voyait, c'est qu'on est un petit peu dans une queue de comète où, à une époque, il y avait une grosse combativité ouvrière. Et en fait, les centres de distribution, les centres de tri étaient ce qu'on pouvait qualifier, allez, grosso modo, de bastions ouvriers. Bastions rouges, allez, si on veut. Hop. Aujourd'hui, c'est nettement moins le cas. Ce qui fait que, par exemple, l'employeur arrive de plus en plus à faire passer sa politique où il ilote les agents, c'est-à-dire il crée sur un site de travail d'une centaine de personnes, il va y réussir à séparer les gens. Il y aura les questions des promotions, tout ça. En gros, et donc il y a beaucoup moins de réactivité ouvrière, de réactivité syndicale. En gros, évidemment, dans ce contexte, il y a des gens qui peuvent se sentir isolés. Par exemple, si vous approchez de la cinquantaine, que vous avez une réorgue, on va vous faire comprendre qu'il est temps de prendre je vais dire TPS, mais ça parlera pas aux gens, une pré-retraite aidée, voilà. Et on va faire le comprendre, mais des fois un peu salement.
En insistant.
Et salement, c'est-à-dire qu'on va faire des crasses sur une réorg. Un ancien qui avait sa tournée depuis 12 ans ou 15 ans, on va lui exploser sa tournée. Pour bien qu'il comprenne qu'il doit jarter, qu'il doit demander son TPS. Mmh. Dans ces situations-là, en absence ou en manque de collectifs ouvriers forts, soudés, capables de répondre collectivement à l'employeur, les gens peuvent se sentir seuls, démunis. Et parce qu'on a souvent le débat aussi sur le suicide, est-ce que c'est la boîte, est-ce que c'est sa vie perso, un individu, il est un et unique, hein. Il n'est pas saucissonné le matin entre ses activités de tri distribution et après l'après-midi c'est quelqu'un d'autre. Il est évident que ce qu'il vit dans sa vie privée aura un impact sur son taf et ce qu'il vit à son taf aura un impact ensuite sur sa vie privée. Un individu est un, voilà. Et c'est évident que toute cette recrudescence de suicide est due, ben voilà, à des situations où justement on manque de collectifs dans les centres et des gens isolés se sentent de plus en plus seuls. En fait, nous, on n'a pas envie de faire un constat qui est accablant, puisque c'est vrai que le constat est accablant. Hein, et en gros, nous, ce qu'on dit, Sud-Post 92. Ce qu'il faut, c'est résister face aux suppressions d'emplois, résister face à la politique de précarisation de l'emploi, hein, les contrats pro, les intérimaires. Aujourd'hui, on a des intérimaires CDI, c'est-à-dire de la sous-traitance, tout simplement, hein, des gens d'ADECO qui sont CDIsés, qui bossent chez nous. Enfin bon, en gros, on n'a pas envie de se laisser manger tout cru et ensuite d'avoir que nos yeux pour pleurer sur ce qui se passe. Et donc, en gros, c'est vrai qu'il y a, c'est pas l'évidence de résister à des attaques patronales quand il y a une réorg qui va supprimer tant d'emplois sur un bureau. Le réflexe premier des agents, il n'est pas de s'unir, de dénoncer l'employeur et de faire grève pour essayer de contrer ce plan. Donc évidemment, ça va nécessiter de faire du syndicalisme, de pas tomber dans les travers. Les pièges du dialogue social où l'employeur va vouloir nous faire choisir un scénario A qui fait moins de 12 suppressions d'emplois contre un scénario B qui, rendez-vous compte, ferait moins 16. Voilà, et là, beaucoup de syndicats plongent...
Signé pour moins 12, sinon ce sera moins 16, c'est ça ?
Plongent là-dedans, mais c'est aussi pour nous court-circuiter, la boîte organise des consultations. On a beaucoup parlé du Lean, mais je pense que le Lean... Je dirais que
le lean management, il en a été question dans cette émission et on en reparlera souvent parce que c'est une vraie saloperie.
Il est pratiqué depuis longtemps chez nous à La Poste parce que on a une novlangue managériale qui est délirante. Je vais pas parler.
Idem à l'hôpital public.
J'imagine. Voilà. Hein, je pense que chaque boîte, chaque administration a sa novlangue délirante issue des écoles managériales.
C'est ça.
Voilà. Je vais essayer de faire court là, parce que voilà. Là récemment, donc sur la loi travail, avec les copains, on a réussi. Il y avait de la colère justement sur une réorg à Asnières qui n'avait pas eu de réorg de réorg, de restructuration, pardon, je dis restructuration, je vais parler un peu de novlangue, modernisation et adaptation des moyens. Voilà.
D'accord, ouais.
Et mutualisation.
Modernisation continue.
C'est ça, c'est un acronyme pour virer des gens.
Voilà.
Ok, c'est ça.
Bon, enfin, il n'avait pas été modernisé de façon continue depuis 2010. Ah ouais. Voilà. Qui, par exemple, sur les Hauts-de-Seine, il y a eu beaucoup de grèves ces dernières années. C'est vrai qu'on a un petit peu cette tradition, d'appeler les collègues à la grève. Et c'est vrai qu'en fait, on a obtenu pas mal d'avancées, puisque sur le département, on a pas mal, beaucoup de nouveaux services ou de nouveaux métiers que la boîte voulait nous passer, on ne les a pas.
Ouais.
On a un mouchard Facteo qui est un smartphone. Pour l'instant, il n'est pas déployé sur le département. Et en fait, c'est dû aux grèves. Voilà, il y a des bureaux comme par exemple Agnières qui n'avait pas eu de réorg depuis 2010, Fontenay depuis 2009, alors que tous les bureaux sont réorganisés sur le territoire tous les deux ans. Voilà. Et ça, c'est dû uniquement aux grèves. Ce n'est pas une gentillesse de la boîte. On a des mesures qui sont compensées. Je vais vous parler de sécabilité, ça vous dira rien, mais par exemple la sécabilité, elle est compensée. La sécabilité, c'est quand il y a un absent,
On découpe sa tournée.
Voilà, ceux qui restent font plus.
Ouais, c'est ça.
Et ceux qui restent font plus. C'est-à-dire que, vous pouvez finir ensuite à 15h ou à 16h de l'après-midi, suivant la taille de la sécable.
Mmh. Voilà. 16h, 15h, sachant que les postiers commencent à 6h, 6h30.
Voilà, 6h30, 7h15, suivant les bureaux. Enfin,
d'accord.
Bon, ça dépend des bureaux. Mmh. Et finissent, aux alentours de 13h. Voilà. Donc voilà. Il y a eu grève, on essaye de pratiquer un syndicalisme où on va voir les collègues et où on les incite à refuser ces réorgs, ces suppressions d'emplois. Ça donne un petit peu de... ces grèves et ces victoires syndicales, elles tombent pas du ciel, comme Agnières par exemple. Elles tombent pas du ciel, elles tombent parce qu'il y a des équipes syndicales qui font le boulot, qui font un syndicalisme qu'on pratiquait dans les années 80. Le syndicalisme des AG, qui a quasiment disparu de la poste, sauf sur quelques endroits, sur quelques départements. Le syndicalisme de lutte, et un syndicalisme qui refuse le dialogue social.
Voilà.
La poste, on rigole pas à la poste avec le temps de travail. Pour organiser les tournées de ses facteurs, l'entreprise utilise un logiciel de choc qui s'appelle Méthode, qui découpe chaque tâche en minutes, en secondes et même en centiminutes. Une science quasi nucléaire. C'est un extrait d'un article du Canard de ce mercredi à lire. Ça bouge à la poste, même des cabinets d'expertise CHSCT lancent des procédures, se mobilisent pour faire tomber ce truc-là.
Ouais. Il y a beaucoup à se mobiliser, hein. Donc, Olivier nous avait parlé de toutes ces réorganisations, etc. Mais la preuve dans son intervention, c'est qu'il est possible de lutter. Il est possible de lutter. Et ça, s'il faut que, si on prend un tout petit peu de hauteur, non seulement il est possible de lutter dans sa boîte, hein, ce qu'on a vu à la poste, mais il est possible de lutter tous ensemble, hein, et tout ensemble. Et notamment, on va lancer le premier rendez-vous de cette émission, je crois. Hein,
une grande nouvelle.
Ah bah vas-y alors.
Le 7e congrès de l'Union solidaire a appelé hier à construire un mouvement fort appuyé sur une grève large, unitaire et intersyndicale, et à dans l'immédiat manifester le 19 juin.
Le 19 juin, qui sera la énième d'ailleurs manifestation, parce qu'ils ont commencé avant même le premier tour. C'est la manifestation du Front Social, voilà. Donc le rendez-vous est à 18h devant l'Assemblée nationale, hein. C'est ça, hein.
C'est ça.
Voilà, et donc appel, maintenant on sait que l'Union solidaire tout entière appelle déjà à ce rendez-vous, hein, pour que ce sera l'issue du deuxième tour des législatives. On prévoit une assemblée entièrement macronisée, hein. Et donc il va falloir dire à ces gens que ça va pas se passer comme ça, quoi. Hein. Donc donc le Front Social, cet appel, nous le relayons, hein, nous le faisons nôtre. Il y aura d'autres appels dans la semaine prochaine, en cours de l'émission. Et pour continuer à se motiver, nous allons passer une nouvelle chanson de guerre. Juste avant qu'on la passe. C'est une chanson qui date un peu maintenant, parce que c'est du old school rap à la française, donc on se dit, ah oui, les années 80, tout ça. Ça n'a pas perdu une ride. Écoutez bien.
Yeah. Faut tout donner.
Ouais, tout donner.
Yeah. Pas le moment d'abandonner.
Non, pas le moment d'abandonner.
Au microphone, le bouc dans ma phrase, pétard pour des scalpes.
Ouais.
Pas par choix, non, c'est la vie qui veut ça. Je vais donner. Yeah. Yeah.
quitte le air, quitte le pour tout donner. R en BO et la loco, le Glock va détonner. 9-3,
c'est arrivé près de chez toi. Arrête, presque sous ton nez.
Tout près de chez nous. D'ailleurs, tout près de chez nous, c'est ça, il y a quelque chose qui va se passer ce week-end.
Ouais, regarde, j'ai deux papiers sous les yeux. D'un côté, je vois Muriel Pénicaud, ex-DRH d'Assaut et Danone, notre nouvelle ministre du Travail.
Ouais, notre ministre, ouais, j'en sais.
Travail en révolution, festival de la CNT du 23 au 25 juin à la Parole Errante à Montreuil, 9 rue François de Berg, métro Croix de Chaveau, allez-y. Il y a Daniel Inart qu'on a déjà reçu
oui,
ici.
Oui, tout à fait.
Compagnie Nage, on en avait déjà parlé. Christophe Dejour et plein d'autres qui vont nous parler du travail. Et de la souffrance au travail, notamment.
Ouais, et de la résistance aussi, parce que c'est pas de la CNT de baisser les, c'est pas le genre de la CNT de baisser les bras.
On parlait de la loi travail à 12h30 dimanche, un documentaire réalisé par un militant de la CNT, projection suivie d'un débat et plein d'autres choses.
Et plein d'autres choses. Ça va être une soirée de vendredi et deux jours suivants, extrêmement bien chargée et extrêmement intéressant. Donc, on vous invite à y aller. Il faut se documenter si on veut se battre. Et donc, c'est ce qu'on va faire aussi. Alors, là, la séquence suivante.
C'est une autre lutte.
C'est une autre lutte. Encore une autre lutte avec réussie et encore un camarade qui est venu nous parler de comment il organisait ça, comment il voyait ça. Alors, juste pour introduire la séquence, sinon on comprend pas. Donc c'est Moussa de New Look qui en fait avait fait sa mission de délégué du personnel et qui s'est retrouvé suite à sa mission de délégué du personnel lui-même mis en cause. Voilà, et lui-même avec une tentative de licenciement. Et il va nous expliquer comment ils ont retourné la pression contre la boîte. Donc t'as un peu mouillé la chemise, mais ensuite c'est toi qui as été dans la ligne de mire.
Bah, ce salarié ensuite a été licencié.
Ouais.
Donc, à la suite de ça, il y a eu un entretien. Bah, généralement, quand t'es en entretien après la licenciement, en général t'es dehors. C'est juste pour la forme, hein, on fait ça pour la forme, mais en général t'es dehors. Donc moi, à la suite de ça, alors si je dis pas de bêtises, le 29 novembre 2016, j'ai une convocation qui arrive chez moi. Oui, vous êtes convoqué un entretien pour une enquête.
D'accord.
Donc c'est un droit d'alerte qu'on a fait. À mon encontre.
Contre toi.
Donc là, c'est un délégué du personnel encadrant qui a fait ce droit d'alerte.
D'accord.
Voilà.
Et qu'est-ce qui t'est reproché ?
Donc je suis allé au siège, donc un peu interloqué, donc j'y vais et tout, je viens insister. Hein. Voilà. Donc on me reproche d'harceler l'équipe encadrante de Créteil. On me reproche d'avoir menacé par voie téléphonique des encadrants. D'éventuellement les menacer dans leur vie privée, d'avoir dit que la responsable de ce magasin était raciste. Il y a des gens qu'on a même dit qu'il y a des gens qui prenaient des tranquillisants parce que ma présence les stressait.
D'accord. C'est un danger public, c'est ça en fait.
Oui, c'est un peu ça.
Ouais.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On dit que j'avais des bâtons, parce qu'on a fait une manif sur le magasin pour protester contre les licenciements de ces personnes. On dit que j'avais des bâtons, que j'insultais, que je demandais des comptes au manager, que je les rabaissais. Hein, voilà, tout est passé en fait.
Tu tenais tes drapeaux au bout d'une hampe, c'est ça?
Je pense que c'est ça, mais ils ont dû.
Ah oui, d'accord.
Voilà,
ouais, effectivement.
C'est ça, mais
drapeau quoi. Okay.
Voilà. Donc voilà. Donc puis 10 jours après, c'est-à-dire le 9. J'ai une convocation du CFCT.
D'accord.
Voilà. Une deuxième enquête. Donc, une semaine après, ils ont requis une enquête. Où, ce jour-là, il y avait présence des membres du CHT, donc secrétaire et secrétaire adjoint, et d'un huissier de justice qui était présent.
Ah, ils ont mis les gros moyens.
Au cas où, si
ouais,
au cas où je pars en freestyle, comme on dit.
Ouais.
Donc, on me dit encore la même chose. Vous harcelez les managers, vous menacez les managers, etc. Des managers disent que quand ils voient un groupe de personnes un peu basanées, ils ont peur.
Ah ouais.
Ah oui,
ils ont dit ça.
Ah oui, non, c'est marqué dans un compte rendu noir sur blanc.
Bravo.
Donc moi j'ai regardé la DRH, je lui ai dit écoutez, j'espère que vous vous rendez compte de ce que vous mettez. Je sais pas comment vous pouvez mettre un truc pareil parce que c'est quand même assez grave.
Bah oui.
C'est quand même ça prête à je sais pas. Donc moi je pose la question à un membre du CHSCT, je lui dis qu'est-ce que ça veut dire, ça sous-entend quoi, il faut m'expliquer. Expliquez-moi. Ça veut dire qu'en fait, moi, je suis basané et que je peux être amené à aller agresser les gens, venir en bande, en attroupement, venir agresser les gens en magasin, c'est ça? Ah non, c'est pas ça. Bah, excusez-moi, ça veut dire quoi alors?
D'accord.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Donc, grosso modo, si je comprends bien, alors tu nous avais dit en off qu'il y avait 50 pages de dossier, c'est ça? Ils ont écrit un roman, quoi.
Ouais, je l'ai lu deux fois.
Ouais.
Bon, après, j'ai arrêté parce que c'était énervant.
Ouais, faut pas s'infliger ça.
Mais c'est quoi ces 50 pages? C'est des témoignages?
Ouais, des témoignages, des yondis, quoi. Alors, ce qui est marrant dans les témoignages, c'est qu'il n'y a pas de nom.
Ah
c'est,
oui.
C'est témoignage 1, témoignage 2, témoignage numéro 3.
D'accord.
Donc moi, en gros, quand j'ai lu, j'ai identifié les gens.
Ouais, enfin, mais bon.
Mais il n'y a pas de nom. Donc moi, quand j'ai demandé à la DRH pourquoi il n'y avait pas de nom, bah, c'est pour protéger les personnes.
Ah oui, d'accord.
Pour protéger les personnes. Ouais. Donc je suis susceptible
d'aller... Parce que là, pour le coup, dans les démarches initiées par la direction, on va dire, là, c'est important de protéger les personnes.
Oui, oui.
Généralement, quand c'est des plaintes individuelles dans l'autre sens, ça l'est moins, non ?
De toute façon, pour moi, tout ça, c'est instrumentalisé, je leur ai dit. Hein. Mm-hmm. Je leur ai dit que pour moi, c'était une mascarade. Hein. Mm-hmm. Je leur ai dit que c'est une grosse mascarade.
D'accord.
Je leur ai dit, hein, texte.
Ok. Donc, tu as des mandats, hein. T'es délégué du personnel, membre du CE et défenseur syndical. Donc, tu as une protection. Logique.
Alors, une protection, oui.
Et tu passes devant l'inspection du travail.
Alors, à la suite de ça, à la fin du rapport, ils ont dit que pour que le climat dans ce magasin revienne à la normale, il fallait demander mon licenciement. Ah, c'est ce qu'ils ont fait, hein. Donc, à la suite de ça.
Licenciement pour motif climatique.
Voilà. Donc, à la suite de ça, on a fait un petit mouvement,
pour protester contre nous, ouais.
ces agissements-là. Mmh. Bah, ils ont pas aimé. On a fait ça en plus le premier week-end de Noël. Mmh. Et trois jours après, j'ai eu le droit à ma mise à pied à titre conservatoire.
Dans le cadre de la procédure qui est déjà initiée, en fait.
Voilà.
D'accord, ok.
Donc, j'arrive au magasin un jour, mon responsable du magasin me dit, voilà, Moussa, j'ai quelque chose à te remettre. Il m'en met ma lettre, voilà, t'es mise à pied. À compter d'aujourd'hui, ça s'est arrivé le 22. Le 22 décembre, je suis mise à pied à titre conservatoire jusqu'à le jour de l'entretien qui avait lieu le 9 janvier. Mmh. Le 2 janvier, excuse-moi.
Le 2 janvier.
Le 2 janvier.
Bonne année.
C'est ça.
Ouais. Et donc, en fait, au final, ça n'a pas tenu très longtemps, hein, visiblement, l'inspection du travail.
L'inspection du travail, on n'était pas trop inquiets parce que on voulait voir quand même ce qu'ils avaient, parce que le rapport était quand même costaud. Donc, on se dit, s'ils font ça, ils ont quand même un petit peu de billes. Bah, le jour où on était inspecteur du travail, on était assez surpris parce que, du coup, l'inspecteur nous a expliqué qu'il y avait 50 pages de conclusion pour 5 maudites attestations. D'encadrant.
D'accord, d'encadrant exclusivement.
Exclusivement. Même pas de, ouais, okay. Même pas de certificat médical, rien de tout ça.
D'accord. Et donc vide, l'inspection du travail refuse.
Elle a refusé, la réponse est arrivée assez rapidement.
Hein. Ouais, apparemment. Ouais.
Donc nous, on lui a bien dit de prendre son temps, de bien analyser les choses. Donc lui, il a répondu assez sèchement, pardon. En disant que c'était pas fondé, qu'il y avait quand même un caractère discriminatoire et que tout ça était lié entre l'enquête et la demande de licenciement, tout était lié en fait.
C'était lié à l'exercice du mandat.
Ouais, c'est lié. Il n'y a pas de voie de fait, il n'y a rien de tout ça.
Mais bon, alors si j'ai bien compris quand même, même si l'inspection du travail refuse, la bataille elle n'est pas terminée. Vous avez décidé de continuer à vous battre avec l'équipe.
Oui, parce que l'employeur peut avoir un recours au ministère.
Ouais.
On peut pas l'exclure, voilà. Donc
faut maintenir la pression.
Faut maintenir la pression pour éventuellement éviter ça, parce que c'est un peu compliqué le ministère. Hein. C'est beaucoup politique, c'est très politique.
C'est très politique. On a vu avec par exemple Air France, on a vu avec d'autres dossiers où le ministère a pris le contre-pied. Alors juste très rapidement, hein, parce que là il nous reste un peu de temps, je voulais te poser un peu rapidement quelques peut-être des indices de comment est-ce qu'on se bagarre dans ces cas-là, vers qui on se tourne et quelles actions on peut mener. Est-ce que tu as deux, trois exemples?
Alors nous, ce qu'on a fait là la semaine dernière, on a fait une semaine internationale d'action contre New Look. Donc on a fait ça du 6 au 12.
Ah ouais.
Bon, après ça va se prolonger. Donc pour faire rapide, on a fait des actions un peu partout en France.
Ouais.
Donc il y a eu Paris, Bordeaux, Lyon, Rouen.
D'accord.
Le Havre.
Paris, Bordeaux, Lyon, Rouen. Ok, donc plusieurs villes parisiennes.
Plusieurs villes de France.
Et simultanément, c'est ça vous
Non, à des jours, un jour par-ci, un jour par-là.
D'accord.
Voilà. Et également, on a été en Angleterre aussi. Également parce que Londres, New Look est anglais.
Ouais.
Donc on a à l'occasion de la TSS,
Transnational
Strike.
Ouais, strike. Ouais,
voilà.
C'est ça.
Mm-hmm. Donc on s'est permis de se rendre en Angleterre avec quatre camarades.
Bien.
On est parti au siège anglais. On était assisté.
Pour aller sonner les cloches du siège.
Voilà, on était assisté de camarades étrangers, mm-hmm. Donc des Suédois, des Allemands, des Italiens, Espagnols, etc. Donc on est parti faire une action au siège social, le grand siège du Look en Angleterre.
Contre le harcèlement, la discrimination.
Eux, on ne sait pas s'ils sont au courant de ce qui se passe.
Ouais.
Mais on voulait quand même les sensibiliser là-dessus. Ouais. On a même traduit un tract en anglais, etc., qu'on leur a donné. Mm-hmm. Voilà. Et on espère que ça va pouvoir apaiser les choses, parce que nous, ce qu'on veut, c'est retrouver un climat sain, normal.
Ouais.
Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu tendu, quoi.
Ouais. Donc, voilà, ok. Et donc dernier petit point. En parallèle donc de ces actions donc à l'envergure nationale et internationale, on a vu hein, donc ne pas lâcher la pression sur New Look. Il y a une pétition en ligne qui continue à être signée hein, pour ta défense, c'est ça?
Oui, une pétition en ligne. D'ailleurs, je la connais pas par cœur.
D'accord. Elle est sur quel site de pétition?
Alors, elle est sur Mes Opinions.
Mes Opinions. D'accord. Voilà. Donc Mes Opinions, et c'est
non licenciement de Moussa.
Voilà, non licenciement. Donc on peut le retrouver sur le site de Mes Opinions.
Voilà.
Et non licenciement de Moussa. D'accord.
Voilà,
donc
ça.
Faut continuer à la signer. Faut pas lâcher la pression.
Il y a pas de problème. Faut la signer. N'hésitez pas. Il y a pas de problème.
Ok. Voilà, ça c'était Moussa. Donc on est en train de développer nos exemples. Hein, c'est ça. Hein, voilà.
Mais surtout, ce qu'on en retient, c'est que ça marche quand il y a l'intersectoriel, l'intersyndical,
l'interpro,
il y a de la construction de réseau.
Ouais, exactement. C'est hyper important. C'est hyper important de mobiliser dans sa boîte. C'est hyper important de garder des structures syndicales solides, de les entretenir, de rejoindre les syndicats. On a vu ça avec La Poste. C'est important aussi de se tourner vers les autres, hein, d'autres pays, d'autres professions, etc.
D'autres professionnels.
Et d'autres professionnels aussi, ouais, par exemple.
Et il y en a des militants. On en a invité ici.
Oui, on en a invité pas mal.
Anne qui est venue nous raconter en mars.
Ouais.
On a invité des femmes,
oui,
des femmes en lutte.
Tout à fait. Tout à fait. Donc tous ces aspects de lutte sont des choses que nous voulions mettre en valeur aujourd'hui, parce que on pense que du côté des militants, peut-être que le moral n'est pas au plus beau, mais n'oubliez pas, tant qu'il y a de la lutte, il y a de la vie, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Eh oui. Donc voilà, alors toujours dans l'idée qu'il faut rester debout, hein, il faut faire feu de tout bois, une petite séquence musicale, et après nous allons clôturer sur la mobilisation à l'inspection du travail, et nous allons en parler. Mais tout de suite, allez, tout le monde debout là.
Qu'on veut pas de commentaires, que des combattants dealers. Qu'on veut pas de militaires, que des militants. Hey, debout là-dedans. Motive tes troupes, tactique, on lève le camp dealer. Qu'on veut pas de commentaires, que des combattants dealers. Qu'on veut pas de militaires, que des militants.
Et le 18 mai 2017, c'était l'inspection du travail qui était debout à l'appel de l'intersyndicale. 8 syndicats, 6 syndicats.
7 syndicats, 7 syndicats.
Elle est entrée en action pour se battre contre la baisse des effectifs.
CNT, FO, FSU, Sud et UNSA. Tous les syndicats des ministères.
Et donc, oui, elle est entrée en action parce qu'il fallait se battre.
Contre
la baisse des effectifs, les restructurations, l'inspection du travail.
Ouais. Ouais.
Et t'as quelqu'un pour nous en parler?
Ouais, j'ai quelqu'un pour en parler. Alors voilà, ça c'était l'émission du mois dernier. On avait fait un retour sur cette action splendide et interpro autour de l'inspection du travail, qui s'était conclue par une occupation d'une nuit de la directe d'Île-de-France. Et il y avait vraiment tout le monde avec nous. Hein. Je renvoie à l'émission du mois dernier pour le détail de tous les participants, parce qu'il y en avait vraiment trop et je les ai tous interviewés. Alors
14 régions mobilisées.
14 régions mobilisées. Une mobilisation massive en Île-de-France aussi, et on a eu le soutien donc des travailleurs et travailleuses sans papier. C'est ça qui m'a vraiment botté. Et en fait, la meilleure intervention qui a foiré lors de l'émission du mois dernier, j'ai pas pu la passer, mais c'est pas grave parce qu'elle est là maintenant. C'est donc Diallo Mamadou, d'un des collectifs, donc du collectif 94, qui venait nous expliquer pourquoi les sans papiers étaient venus en nombre soutenir l'inspection du travail. Oui, dans ce sens-là cette fois-ci.
Toujours dans les locaux donc de la directe. Maintenant, je vais passer la parole à un représentant des collectifs sans papiers qui sont venus s'associer à la lutte des inspecteurs et contrôleurs du travail. Présente-toi, bonjour.
Bonjour, moi c'est Diallo Mamadou, je suis délégué du collectif des travailleurs sans papiers de Vitry-sur-Seine. Donc on a répondu aujourd'hui à l'appel de nos camarades inspecteurs du travail. Notamment en ce qui concerne la suppression de postes au sein de l'inspection du travail. Donc on se sent concerné pour ces suppressions. Nous sommes des travailleurs, donc l'inspection du travail assure une protection pour nous, pour l'ensemble des travailleurs et surtout pour les travailleurs sans papier. S'il y a moins de postes, Cela veut dire qu'il y a moins de vérification, moins d'inspection. Et c'est le travail au noir qui va exploser. Et c'est les travailleurs sans papier qui vont payer les frais, parce que c'est les plus précaires, c'est les gens qui travaillent dans le bâtiment, dans la restauration, dans les boulots les plus pénibles. Donc ils ont besoin d'être vraiment protégés plus que les autres. C'est des endroits où on rencontre plus de pénibilité, plus de souffrance sur les lieux de travail.
Donc, tu n'es pas venu tout seul en fait. Il y a des camarades de ton collectif et d'autres collectifs, je crois, qui sont venus aujourd'hui pour nous soutenir.
Nous sommes venus, le collectif de Vitry, le collectif du 93, il y a droit devant aussi. Voilà, donc dans le 94, on était à peu près une vingtaine, ainsi que les autres collectifs, quoi. Voilà, donc les camarades sont au courant, ils sont motivés. Et s'il y a quelque chose après, on compte être plus nombreux. Ouais.
Ça c'est cool, je te remercie. Effectivement, c'est le début d'un travail de pression. Alors c'est vrai que l'inspection du travail a depuis deux ans là mène une campagne avec les travailleurs sans papier. On a appris des choses sur l'action qu'on est en train d'essayer de mettre un peu en valeur. On a appris des choses auprès de vous. Donc, on est très content en plus que vous voyez un peu nous battre aussi pour nos droits, quoi. Hein. Voilà, c'était un peu ça l'idée.
Oui, moi je peux dire c'est la concordance des luttes. Hein. On doit se donner la main et se battre face à ces gens qui veulent tout retirer aux travailleurs. Voilà, donc s'affirmer et revendiquer nos droits. Donc nous sommes dans la même lutte. Je pense qu'il n'y a pas à remercier ici les collectifs. C'est notre lutte, la lutte des inspecteurs, c'est la lutte des sans-papiers. La lutte des sans-papiers, c'est la lutte des inspecteurs.
Ben merci, c'est le mot de la fin. Je te remercie beaucoup.
Ah. Énorme. Concordance des luttes, se donner la main. Si tous les travailleurs et les travailleuses pouvaient comprendre que quand on casse l'inspection du travail, c'est les travailleuses et les travailleurs qu'on casse. Ouais. Mais on a tout fait justement pour qu'ils comprennent pas ça.
Ouais, mais c'est en train de craquer. C'est-à-dire que l'espèce de mur de silence est en train de craquer. C'est pour ça que je remercie encore le camarade qui vraiment nous a fait une synthèse. C'est merveilleux, quoi. C'est moi j'ai trouvé ça formidable. C'est pour ça que je passe ce son, je le passe autour de moi, je le repasse.
Ils étaient nombreux à venir.
Bah ouais, il y avait quand même une cinquantaine. C'était pas leur bagarre. Donc ils ont fait exprès de pas venir non plus trop nombreux parce qu'ils voulaient qu'on puisse se mettre en avant. Donc ils ont vraiment volontairement, ils nous ont appuyés pendant les étapes essentielles. Et quand on est parti en occupation, ils ont dit c'est pas notre occupation, vous avez notre soutien, on va pas rester parce que c'est pas notre bagarre. On est content de vous avoir amené jusqu'ici et maintenant allez-y marquer des points, quoi. C'est ce qu'on a fait. On a tenu toute la nuit en fait.
On les appelle à venir le vin. Parce que le vin,
ah bah justement, le camarade avait promis qu'il serait nombreux lors de notre prochaine action, et notre prochaine action, c'est la semaine prochaine, donc dès le lendemain du Front Social, l'intersyndicale du ministère, la même, hein, les 7 syndicats, appellent à une journée de grève et d'action, avec une montée nationale de la profession sur Paris. Donc il y a des gens qui vont venir de toutes les régions du ministère du Travail. Et là, sur place, il y a déjà des syndicats d'autres fédés. Il y a déjà la CGT de Paris, l'US Commerce, Sud Commerce, l'Infocom CGT et les collectifs sans papiers qui viendront accueillir les inspecteurs et contrôleurs du travail. Donc à 10h, à Montparnasse, place du 18 juin 40, c'est au pied de la tour. Et de là, on va partir, après une conférence de presse, on va partir en manif sur Grenelle pour exiger l'ouverture de postes, la reprise des recrutements, notamment en catégorie B et C, c'est-à-dire en catégorie d'appui, et évidemment aussi en agent de contrôle. On veut que tous les postes soient pourvus et on veut que évidemment les recrutements reprennent. Voilà. Et donc ça c'est la bagarre qu'on va mener. Donc on a une semaine chargée la semaine prochaine en fait, si j'ai bien compris.
Et vous appelez à être reçu par la ministre qui peut plus on faire la sourde oreille.
Bah on espère qu'un de ces quatre va arrêter de faire sourd comme un pot, quoi, parce que là maintenant c'est bon, elle peut plus nous dire qu'elle vient d'arriver. Le 18, c'était juste le lendemain de son intronisation. Ah, je suis pas prête, je suis à Baden-Baden. Non, en fait, elle était partie en Allemagne, je sais pas faire quoi. Mais voilà, maintenant, elle a un cabinet, elle a tous ces gens sont en poste, elle est prête à nous recevoir. Ouais, tu parles. À mon avis, il va falloir mettre une sacrée pression. Mais c'est ce qu'on va faire. Voilà. Donc, je récapitule donc les rendez-vous de la semaine, hein, si j'ai bien compris.
On récapitule. Qu'est-ce qu'on a
On a le 19. Le 19, lundi 19, devant l'Assemblée nationale, 18h, pour le rendez-vous du Front Social. Donc se faire entendre par les députés.
Le 20, appel à la mobilisation, inspection du travail.
10h à Montparnasse pour manifester en direction de Grenelle et être reçu par la ministre du Travail. Non aux ordonnances, non aux suppressions de postes à l'inspection du travail. Et ensuite, pour se rassembler, se retrouver et se culturer.
Du 23 au 25 juin, Festival de la CNT, Travail en Révolution.
Voilà, donc vous avez une semaine chargée en lutte sur le travail et cela ne fait que
commencer.
Eh ouais.
Je pense à toi, mon amour. Moi qui suis loin de nos terres. J'y vais pour toi, mon amour. Pour maman et pour mes frères. Là-bas, c'est une terre d'accueil. Je serai bientôt sur le seuil. Oh, là-bas, c'est l'Europe. Mais sur cette mer d'écueils.